Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cet audio, nous allons parler de la perte de la grâce et la relation avec l'enfant intérieur et la santé du corps. Pour commencer, je voudrais vous parler de la théorie d'Aldous Huxley qui nous présente l'existence de trois types de grâce. Alors, il y a d'abord la grâce animale qui est celle que l'on voit dans les mouvements chez un écureuil, par exemple, ou la grâce féline d'un puma, ou la légèreté et le bondissant d'une gazelle. Les gestes des animaux sont toujours économes en énergie, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'éparpiller à faire des choses par anxiété, un petit peu nerveuses comme ça. Ce sont des gestes aussi qui sont toujours harmonieux, et quand on les regarde, ils ont un petit peu cet effet sur nous d'hypnotisant. Du côté humain, bien que la culture chrétienne ait longtemps séparé les concepts de corps d'un côté et d'esprit de l'autre, eh bien la grâce animale ne semble plus nous suffire. Mais ce n'est pas parce que du coup il y a les deux autres qui existent et qu'on a besoin de ces deux autres grâces que nous allons voir, que la grâce animale ne nous est pas nécessaire. Elle reste une base que nous devons vivre tout simplement. Et au-delà de cette grâce animale, donc l'humain a continué d'évoluer, il a continué de se construire et il a créé ce qu'il appelle la grâce humaine, qui est celle des valeurs et de l'acte envers l'autre, envers autrui. Donc finalement, du respect, voire de l'amour de l'autre. S'ajoute à ces deux grâces une troisième, la grâce spirituelle, qui est très évoquée dans la religion, mais qui reste un petit peu mystérieuse, et qu'on pourrait définir comme celle qui a à voir avec la connexion avec le divin, en fait. Hein. Celle du coup des saints qui sont en connexion divine, qui reçoivent ce qui est dit, ils reçoivent la grâce, c'est en fait la grâce spirituelle. Et d'après plusieurs auteurs, dont Alexandre Loewen, qui reprend en fait cette définition d'Aldous Huxley, nous possédons naturellement ces trois grâces totalement lorsque nous sommes bébés. Et on peut déjà voir que le nouveau-né possède cette grâce animale, hein, ces gestes qui sont parfaits, hypnotisants et qui pourtant ne sont pas conscients. Mais l'enfant va vite perdre cette grâce en grandissant parce qu'il va être confronté aux attentes extérieures auxquelles il va être obligé de se soumettre au lieu de suivre en fait ses impulsions internes. Alors, bien entendu, quand je parle d'impulsion, il est normal de penser à quelque chose d'un petit peu sauvage, incivilisé. Et l'inquiétude surgit parce qu'on se dit « Oui, c'est bien, mais on ne peut pas laisser tout faire quand même. » Et ça, c'est notre point de vue d'adulte parce que nous avons grandi et nous oublions un petit peu vite que ces impulsions, à cet âge-là, sont naturellement innocentes. En fait, elles ne seront souillées plus tard qu'au contact du monde par imitation, parce que le monde va transmettre en fait au niveau de certaines malheureusement horreurs que l'enfant va voir et finalement dont il va faire l'expérience. Mais au début, dans un monde absolument d'amour, les impulsions seraient aussi des impulsions tout à fait innocentes et d'amour. Elles ne se modifieraient pas comme cela. Alors, bien entendu, il faut un minimum de contrôle parental, mais ce contrôle parental, il est fait pour assurer la sécurité d'un enfant. Ici, je parle de mettre un cadre, mais un cadre très précis, un cadre de protection. Malheureusement, le fait de dire « on ne peut pas laisser tout faire », c'est souvent une excuse qui est utilisée à la place du cadre de protection pour assouvir des envies de pouvoir et de domination, bien sûr, pas forcément consciente, mais qui sont là pour pouvoir en fait profiter de pouvoir mettre sous sa domination quelqu'un de plus faible, même si c'est un enfant malheureusement. Cependant, lorsqu'un enfant va se soumettre, ou au contraire se rebeller, parce que finalement ce sont les deux polarités extrêmes d'une même réalité, hein, se soumettre ou se rebeller, eh bien dans les deux cas, cela signifie que la relation d'amour entre le parent et l'enfant est interrompue. Alors, je parle de parents, mais entendez là aussi éducateur au terme beaucoup plus large, hein, tous ceux qui participent en fait à la vie quotidienne de l'enfant qui l'éduque. Donc la relation d'amour est interrompue. Et ça, qu'est-ce que ça signifie en d'autres mots? C'est que la spiritualité de l'enfant est endommagée. Donc qu'il va perdre sa grâce spirituelle, sa connexion avec le divin qu'il a encore au moment de la naissance, puisque finalement l'âme de l'enfant vient du divin. Du divin, c'est lui qui est le plus près de cette relation-là, au niveau du temps. Et c'est comme cela qu'il va perdre cette connexion avec, du coup, la rupture de l'amour de ses parents. On peut le voir aussi par le fait que le père et la mère sont pour l'enfant, et même une fois quand on grandit, hein, ça reste un peu, mais l'effet est beaucoup plus grand et intense chez l'enfant, c'est que de côté le père et la mère sont des symboles du divin. Et ses parents représentent l'archétype, finalement, de la source. Et donc, la relation d'amour qu'il a avec ses parents représente la connexion avec la source. Et s'il perd cette relation d'amour avec les parents, eh bien, il perd sa connexion avec le divin. Qu'est-ce que ça donne plus tard? Eh bien, l'enfant deviendra une gentille petite fille ou un gentil petit garçon, bien serviable, productif. Hein, productif, il agit, il sait faire. Mais il ne connaîtra plus la grâce et il ne connaîtra plus la vitalité. Car la santé, c'est cela. On pourrait la définir comme une sensation subjective de plaisir et de vitalité qui en plus s'accroît, hein, on le sent, qui s'accroît pendant les moments de grande joie. Ça, c'est sa définition. Mais comment le voir ? À l'extérieur, pour quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur de l'autre. Eh bien, on le voit parce que la santé s'exprime dans la grâce du mouvement et dans le rayonnement du cœur, dans le rayonnement du corps, dans sa douceur, dans sa chaleur, dans sa souplesse et dans sa flexibilité. Et cette santé-là, eh bien, elle est façonnée, tout comme notre personnalité, par nos expériences que l'on va vivre. Et là, on a besoin de comprendre également que les traumas sont tout d'abord des réactions corporelles. Ça se passe d'abord dans le corps. Puis, ces réactions-là vont affecter l'esprit, la psyché. Et ces réactions vont aussi affecter le corps, et plus en profondeur encore que ces toutes premières réactions qui étaient déjà corporelles. Donc, là, c'est au niveau du trauma. Et si la personne, si l'individu peut réagir à ce moment-là, qu'elle en est capable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une situation d'impuissance où le corps ne peut pas agir, ne peut pas se mouvoir, eh bien alors le corps va pouvoir guérir. Sinon, s'il ne peut pas poser d'acte pour se défendre ou pour se protéger, le corps va garder des traces, c'est ce qu'on va appeler des traumatismes. Et donc, il va affecter l'esprit et affecter le corps en profondeur. Donc ça, c'est ce qu'affirme un grand nombre de spécialistes des traumatismes, tels que Gabor Maté, Alexandre Lowen, Marie-Lise Labonté ou encore Bessel van der Kolk, hein, l'auteur de l'incontournable « Le corps n'oublie rien ». Mais ça, ce n'est que pour vous en citer que quelques-uns, parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, avec leur ouvrage, et voilà, pour vraiment... voir que c'est quand même quelque chose qui a été étudié et qu'on sait maintenant tous les mécanismes entre les traumas que l'on vit au quotidien, parce qu'une vie est faite de traumas, on en a plein. Mais pourquoi le trauma passe au traumatisme finalement? tous ces mécanismes-là sont très bien décrits par ces différents auteurs et ils sont bien étudiés par la science. D'ailleurs, vous, de votre côté, vous pouvez observer, surtout si vous êtes entouré d'enfants de différents âges, eh bien que tant qu'un enfant peut pleurer à sa guise, qu'on lui donne la possibilité de pleurer sans le restreindre, eh bien, le corps de cet enfant-là restera souple. Donc, regardez les différents enfants qui sont autour de vous et vous verrez qu'à partir du moment, selon les parents qu'il a, selon l'âge qu'il a, s'il est à l'école, etc., vous allez voir que le corps va commencer à perdre sa souplesse en fonction du fait de sa capacité d'exprimer ses émotions. Parce qu'un éducateur qui interdit à un enfant de pleurer, qu'est-ce que ça crée ? Quand on donne un ordre comme ça maintenant, arrête de pleurer, eh bien on ne va pas couper le besoin du corps de pleurer, le besoin de la personne. L'impulsion des pleurs va rester dans le corps de l'enfant. Ce qui va se passer, c'est que l'enfant va trouver en lui un moyen de la combattre. Donc il va faire surgir sa volonté et combattre l'impulsion. Et il va le faire par le corps, en contractant ses muscles, et cela jusqu'à ce que l'impulsion, c'est-à-dire le besoin de pleurer, finisse par cesser, jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc ça peut prendre 10 secondes, ça peut prendre 10 minutes, hein, selon l'environnement chaotique dans lequel il est, et ce dont il est témoin. Et ça, ça va être son tout premier acte de trahison envers lui-même. Et si cela se produit de façon régulière, eh bien la tension musculaire va finir par rester et devenir une tension chronique que le corps va devoir porter toute sa vie. Donc, ce qu'on dit là, c'est que toute tension chronique est toujours le résultat d'impulsions qui ont été bloquées. Et finalement, ces impulsions finissent par ne même plus rentrer dans le champ de conscience, puisqu'elles n'ont pas été vues, elles n'ont pas été entendues, elles n'ont pas été reconnues. Elles vont rester dans le domaine de l'inconscient. Et arrivé à l'âge adulte, déjà on ne va plus être capable de reconnaître nos émotions, on ne va plus être capable de savoir pourquoi on a une tension à tel ou tel endroit, et parfois même dans des cas extrêmes, on ne va être plus capable de sentir même qu'il y a une tension, sauf si celle-ci provoque en fait des maladies douloureuses, des douleurs, etc. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que refouler, c'est s'expulser de l'état de grâce. Refouler, c'est s'expulser de l'état de grâce. Et cela se voit dans le corps par des mouvements qui vont devenir rigides, qui vont devenir maladroits. Et ça se sent dans l'individu, au final, par des douleurs. Pour guérir ces tensions qui peuvent finalement aller encore plus loin que les douleurs, c'est-à-dire causer des maladies auto-immunes par exemple, c'est-à-dire toucher certains organes, eh bien on ne peut pas finalement se contenter de quelques petits massages pour donner aux muscles de l'énergie pour se détendre. Il faut également agir en changeant la personnalité de la personne en profondeur, parce que c'est le fait d'avoir décidé de refouler qui a provoqué ces tensions et ces maladies. Ce qui fait qu'il doit y avoir un changement dans la façon dont on est capable de gérer la douleur et dans la façon dont on va l'accepter, dans la façon en fait dont on va faire face. Ainsi, pour rétablir la grâce du corps et donc la grâce de l'enfant intérieur, il va d'abord nous falloir comprendre comment elle a été perdue dans le cas précis de cet individu. Et c'est ce que cet atelier se propose de vous aider à découvrir, mais j'insiste sur le fait qu'il ne sera sans doute qu'une porte d'entrée à cela. C'est-à-dire que ce travail d'analyse se poursuit souvent sur plusieurs années, parce que derrière nous, nous avons toute une vie, hein, finalement, ça se rapporte en plusieurs décennies de déni de nos émotions, de déni de nos tensions, de déni de notre corps. Et nous avons inscrit énormément de choses dans notre corps, dans notre psyché. Alors, bien entendu, ça ne va jamais être aussi douloureux qu'au début, c'est quelque chose que l'on apprend à vivre avec, c'est-à-dire ce travail d'analyse. Donc au début, c'est vraiment pas naturel, on apprend, c'est compliqué, il y a plein de choses qui reviennent au niveau des émotions, il y a des souvenirs aussi, et c'est une souffrance, ce début de travail d'analyse. Mais peu à peu, ça devient quelque chose de très naturel, on se laisse porter par la vie, on trouve un symbole, on trouve une synchronicité, ça éveille quelque chose en nous, ça éveille par exemple un souvenir, et progressivement, comme ça, on avance. Et c'est la vie même qui nous fait avancer. Mais au départ, il faut qu'on ait les bonnes méthodes, il faut qu'on ait les bonnes habitudes pour pouvoir faire en sorte que ce travail soit comme aussi facile que nous de respirer et que ce soit comme ça tout le reste de notre vie. Donc oui, il n'y a pas vraiment de fin d'analyse dans une vie. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est reproché à la psychanalyse. C'est on commence et puis finalement, quand est-ce que ça s'arrête le travail de psychanalyse ? C'est pas comme certaines techniques cognitives de psychologie courte hein, qui fait qu'on applique certaines méthodes pour pouvoir vraiment guérir une problématique. La découverte de tout ce qui a été refoulé pendant toute notre vie, c'est quelque chose qui se travaille dans la longueur. Et à chaque fois que quelque chose est résolu, le système se réarrange, il crée de l'espace pour faire venir d'autres questions, pour faire venir d'autres réponses qui ne pouvaient pas venir avant que les autres questions et les autres réponses soient déjà là. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant, ça c'est mon point de vue, mais aussi quelque chose qui traîne en longueur, mais qui enrichit totalement les futures années de notre vie. Donc ce travail d'analyse se poursuit souvent sur plusieurs années, et cet atelier c'est simplement pour donner une impulsion, des bonnes méthodes en fait pour que ce travail-là soit initié et continue. Mais il ne faut pas oublier que ce travail de psychanalyse est particulièrement connu et respecté, mais on oublie souvent qu'il doit se coupler à un affrontement sur le plan corporel aussi. Et finalement, je parle d'affrontement parce que c'est faire face à son corps, c'est faire face à ses tensions, c'est faire face à ce qu'on a décidé de créer, même si on ne savait pas ce que ça impliquait, hein, de retenir pour pouvoir obéir. Et c'est comme une rencontre renouvelée finalement hein, avec le corps et avec ses tensions. Et cela se fait avec beaucoup de sport. Donc tout simplement commencer à être à l'écoute de son corps lors d'une pratique sportive. Et il y a également des pratiques vraiment plus d'exploration du corps, comme le yoga, mais aussi le Feldenkrais ou la MLC, la méthode de libération des cuirasses, qui est malheureusement encore très peu pratiquée en France, mais qui a été la méthode que j'ai utilisée pour moi, ma psychothérapie corporelle hein, au niveau somatique, qui a vraiment en plus... au moment où toute autre thérapie arrêtait un petit peu de pouvoir me faire avancer, il y a eu ces synchronicités de mon côté qui m'orientaient vers un travail d'ancrage. Et ancrage, voilà, c'était très, très... c'était un concept un petit peu mal interprété par moi-même ou dans mes travaux de recherche, j'ai pas forcément compris au départ ce que c'était ancré. C'est pas simplement se mettre dans la nature, les pieds dans l'herbe, et se connecter avec la terre. L'ancrage, c'est vraiment revenir au corps. Et ce travail-là a permis vraiment de dépasser encore, de faire revenir plein de mémoires traumatiques. Alors je savais que j'avais une enfance qui était particulièrement blessée, particulièrement toxique de tous les côtés où je pouvais regarder, mais il y a eu certains détails, et notamment certaines causes, pouvaient m'échapper. J'avais fait des blackouts sur plusieurs traumas, ce qui arrive totalement normalement lorsque l'on souffre du syndrome post-traumatique, notamment complexe, dans mon cas. Et voilà, c'est par le corps que plein de choses sont revenues, qui a redonné une impulsion à la compréhension de ce que je vivais. Donc, là aussi, on peut voir, si on se réfère à la vidéo des alliés que je vous proposais, hein, ces alliés qui nous disaient de relier, qui reliaient en fait eux-mêmes, par leurs conseils, l'enfant intérieur à notre vitalité, l'enfant intérieur à notre ancrage, hein, nous voyons bien ici le lien qu'il y a entre eux, entre le manque de vitalité qui est finalement toujours la conséquence de sentiments, d'émotions et d'impulsions réprimées, et notamment pendant l'enfance. Donc, si l'on regarde tout ça avec un petit pas de côté pour regarder le schéma un peu plus global, on peut voir que la grâce et donc la santé vont dépendre de l'équilibre entre corps et ego. Ego, je l'utilise, on pourrait dire également volonté, hein, ce besoin, cette volonté de gérer nos impulsions, de les faire taire, et que le corps, de l'autre côté, est le générateur de ces impulsions. Et qu'il faut donc trouver un équilibre entre je vais taire toutes mes impulsions ou je vais les laisser totalement orienter ma vie et me guider. Donc, oui, c'est un équilibre entre volonté et... c'est pas vraiment intuition, c'est... Je vais pas trouver mon mot. On va dire le désir du corps. Or, dans notre culture, hein, même une fois adulte, nous, on continue encore et encore, surtout si on est le bien gentil garçon ou la bien gentille fille productive, on va continuer à obliger le corps à faire ce qu'il ne désire pas. Et si on n'y arrive pas, on va prendre encore plus de café, on va tourner comme ça pour, en fait, que le corps continue à servir. Et on traite finalement le corps comme une machine qui n'est pas à faire ce qu'il ne désire pas. Parce que le corps, lui, désire finalement des choses très simples, hein, qu'on a quasiment tous, même si malheureusement ce n'est pas 100% des cas, mais il désire avoir chaud, il désire avoir de la nourriture et il désire avoir un toit au-dessus de sa tête. Tout le reste, c'est-à-dire désirer avoir un compte épargne qui déborde, désirer être puissant, désirer être célèbre, ce ne sont pas des désirs du corps, ce sont des désirs de l'ego qui désire cela. Pourquoi ? Parce qu'il veut être aimé. Il pense qu'il peut forcer l'amour par son pouvoir et sa position sociale, alors qu'on sait très bien que l'amour ne se prend pas. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, mais on ne va pas partir là-dessus, hein. On va rester sur la perte de la grâce. Et donc, on peut voir que cette perte de la grâce, c'est-à-dire la perte de les trois grâces dont on a parlé au début, hein, animale, humaine et spirituelle, eh bien finalement c'est une expression de la blessure de l'enfant, de la blessure de l'enfant intérieur. Dans un organisme sain, on va trouver un équilibre entre exubérance des impulsions et refoulement des impulsions. Il va falloir trouver une harmonie entre les deux. Se sentir libre d'exprimer ses émotions, ses sentiments, mais avec suffisamment de maîtrise pour pouvoir le faire convenablement dans le respect finalement de l'autre, c'est-à-dire dans le respect de la grâce humaine. Les grâces, donc humaines, animales et spirituelles, doivent s'harmoniser. Et au final, on peut voir que l'innocence, c'est la grâce, que la grâce, c'est l'enfant intérieur. Alors je vous propose de faire un état des lieux de cette harmonie intérieure avec un premier exercice qui va être donc un exercice purement analytique, l'exercice des valets du tarot. Alors je vous dis à très vite pour cet exercice, à très vite pour la suite, et puis bien entendu d'ici là, prenez bien soin de vous.